Le titre du sermon aujourd'hui, c'est pas compliqué, mais c'est très important. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu. C'est un thème majeur qu'on retrouve tout au long de la Bible. Et si vous y pensez le moindrement, c'est le fondement même du cheminement spirituel de ceux qui sont appelés par Dieu à l'époque actuelle, pour développer le caractère nécessaire afin de régner dans le monde à venir, pour naître dans la famille de Dieu et pour être capable de se voir confier la gestion de ce monde-là sous la direction du Christ. Faut être prêt. Et le temps qui nous est donné à nous, c'est maintenant. Faut se préparer avant le retour du Christ. Vous savez, un homme peut avoir beaucoup de talent, un homme peut avoir beaucoup d'aptitudes, beaucoup d'intelligence, beaucoup de charisme, mais sans caractère divin, ou appelons ça l'intégrité morale, ou sans intégrité morale, vous savez, qu'est-ce que ça peut donner? C'est la recette parfaite pour un désastre. Et vous avez plein d'exemples de ça dans le monde, tout au long de l'histoire et actuellement. Il n'y a pas si longtemps, aux États-Unis, vous avez un homme du nom de Madoff, qui était dans les hautes sphères de l'administration, même de la bourse, des investissements, et qui a floué des milliers et des milliers d'investisseurs pour des centaines de millions de dollars. C'était un voleur, un escroc. Et vous savez, un escroc intelligent, habile, charismatique, c'est plus dangereux qu'un escroc insensé. Parce qu'un escroc insensé, il va faire moins de mal. Mais un escroc intelligent, habile, charismatique peut faire beaucoup, beaucoup de mal. D'où l'importance de vivre selon les lois de Dieu et de craindre Dieu. Et je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est vraiment que la crainte de Dieu. Quand on voit ça les premières fois dans la Bible, on se demande, c'est quoi craindre Dieu? Et c'est important qu'on le sache. Craindre Dieu, c'est avoir un profond respect pour lui, un profond respect pour Dieu, pour ce qu'il est, pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il fait, pour ses enseignements, pour ses commandements, pour ce qu'il nous dit de faire. Ce Dieu-là qui nous pousse à vouloir devenir comme lui et à désirer faire sa volonté. Et si on le craint, c'est-à-dire si on le respecte, si on a cette crainte révérencieuse, si on a ce respect envers Dieu, on veut faire ce qu'il nous dit de faire. Parce qu'on est impressionné devant cet être unique, majestueux, qui a créé toute chose. Maintenant, je fais une nuance. La crainte de Dieu, ce n'est pas la peur de Dieu. La crainte de Dieu, ce n'est pas la peur de Dieu. Allons à 1 Jean chapitre 4. Je vais faire une nuance ici qui est très importante. 1 Jean chapitre 4. La peur de Dieu, c'est autre chose. La peur de Dieu, elle existe et elle est réelle. C'est la conséquence ou une des conséquences du péché. Quand on transgresse les lois de Dieu, on a raison d'avoir peur de Dieu parce qu'il y a des conséquences qui viennent. Et regardez ce qui est dit ici. 1 Jean 4, verset 18. La crainte n'est pas dans l'amour. Ah, la crainte n'est pas dans l'amour. Mais l'amour parfait bannit la crainte. C'est quoi l'amour? On le voit juste un peu plus loin. Chapitre 5, verset 3. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Quand on aime Dieu, on s'efforce, même si on n'est pas parfait, de mieux en mieux à garder ses commandements avec sa force. Ça, c'est l'amour de Dieu. Alors ici, ce que l'apôtre Jean nous dit, il dit, la crainte n'est pas dans l'amour. Donc, quand on aime Dieu, qu'on essaie de vivre selon ses commandements, il n'y a pas de peur. Ici, il est question de peur. Il n'y a pas de peur dans ce temps-là. Il n'y a pas de peur de Dieu. OK? On craint Dieu dans le sens qu'on respecte sa majesté, son autorité, ce qu'il nous dit. Mais à ce moment-là, on n'a pas peur de lui. On n'a pas peur de celui à qui on obéit, de celui à qui on est en train de plaire. Voyez-vous? Au contraire, Dieu va nous bénir. La crainte n'est pas dans l'amour. Ou disons, la peur de Dieu n'est pas dans l'amour de Dieu. Quand on aime Dieu et qu'on obéit à ses commandements, on n'a pas peur de Dieu. Mais l'amour parfait, aimer Dieu, vivre selon ses lois, bannit cette peur-là. Elle l'envoie. Elle l'envoie plus loin. Car la crainte suppose un châtiment, voyez-vous? Quand j'ai peur de Dieu, c'est que j'ai peur du châtiment qui va m'être infligé parce que j'ai transgressé la loi de Dieu ou je me suis détourné de la loi de Dieu. C'est ça. Et celui qui craint ou qui a peur n'est pas parfait dans l'amour. Il faut qu'il comprenne qu'il doit vivre selon les lois de Dieu, qu'il doit se repentir. Et là, il va cesser d'avoir peur. Il n'y aura plus de peur dans l'amour de Dieu. C'est important qu'on fasse cette nuance-là. On a un exemple de ça très bien dès le début de l'histoire humaine, dans la Genèse, en Éden. Vous pourrez aller voir. Après qu'Adam a eu péché, il s'est mis à avoir peur de Dieu. Après qu'il a eu péché. Avant ça, il n'avait pas peur de Dieu. Dieu marchait avec lui dans le jardin. Dieu lui enseignait plein de choses. Dieu lui parlait directement. Il n'avait pas peur de Dieu. Pourquoi tout d'un coup, il s'est mis à avoir peur de Dieu? Pourquoi? Parce qu'il avait fait le contraire de ce que Dieu lui avait dit de faire. Et il savait qu'il était coupable et il savait qu'il encourait une peine. Et là, humainement parlant, il s'est mis à avoir peur de Dieu. Vous pourrez aller voir, il s'est même caché. Il avait assez peur pour se cacher dans le jardin, en pensant qu'il pouvait se cacher au regard de Dieu. On ne peut pas se cacher nulle part au regard de Dieu. Nulle part. Vous irez voir Genèse 3, versets 9 et 10. Quand Dieu s'est approché, après la chute d'Adam, s'est approché de lui, il lui a dit, « Où es-tu? Où est-ce que tu es? Où est-ce que tu te caches? » Adam a répondu, « J'ai entendu ta voix, j'ai eu peur et je me suis caché. » Voyez-vous? Il avait peur de la punition, il avait peur de rencontrer celui qui lui avait dit comment agir. Et de façon générale, on peut dire que l'être humain, sans Dieu, séparé de Dieu, l'être humain, il est insécure. Il y a une peur au fond de lui. Il y a une peur au fond des êtres humains. Tant qu'on ne connaît pas le vrai Dieu, tant qu'on ne connaît pas le but de la vie, tant qu'on ne connaît pas ce qui arrive après la mort, tant qu'on ne sait pas qu'il y a un plan merveilleux sur l'humanité, on a peur. On a peur de ce qui se passe. On a peur de ce qui s'en vient. On a peur de perdre nos amis. On a peur de tomber malade. On a peur de perdre l'importance qu'on croit avoir. Parce qu'on croit tous avoir une certaine importance. Avant d'apprendre que le chemin du service de la maison de Dieu, c'est le chemin d'humilité. Et même après, on doit encore lutter contre ça. Et l'être humain séparé de Dieu a peur de la mort. Il ne sait pas ce qui arrive vraiment après. Il ne sait pas vraiment ce qui arrive après. Il y a toutes sortes de religions qui racontent toutes sortes de choses, qui sont comme un baume, qui ne donnent pas vraiment un réconfort réel. Mais on n'a pas la réponse. Alors que Dieu, dans sa parole, a la réponse. Lorsqu'on connaît le vrai Dieu, qu'on s'applique à faire sa volonté, ces peurs-là s'en vont et s'installe la paix du Christ. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des difficultés, qu'il n'y a pas des temps durs, qu'il n'y a pas des sentiments humains difficiles. Ça reste. On reste des êtres humains. Mais la peur dont il est question ici n'existe plus. Il y a la crainte de Dieu, le respect de celui qui veut nous conduire vers la gloire et vers la vie éternelle. Quand Dieu attire quelqu'un au Christ, qu'il l'appelle à devenir chrétien, il lui fait découvrir quoi? Il lui fait découvrir un peu sa grandeur, sa majesté, sa puissance. Et là, on réalise que c'est lui qui a tout créé. Et plus on marche avec lui, plus on lui parle, plus on se confie à lui, plus on le voit intervenir et répondre à nos prières, plus il devient réel et plus on voit sa majesté. Et on est touché, on est encouragé, rempli d'enthousiasme, d'admiration, d'adoration, d'affection, de désir de lui plaire, de faire sa volonté. C'est ça, la crainte de l'Éternel. C'est absolument pas négatif. Au contraire, c'est la joie de servir le gouverneur de l'univers. C'est ça, la vraie crainte de Dieu. Quand Salomon est devenu roi sur Israël, Dieu lui a fait une promesse extraordinaire. Allez dans 2 Chroniques, chapitre 1. 2 Chroniques, chapitre 1, s'il vous plaît. Vous savez la promesse que Dieu lui a faite, mais je veux qu'on voit cette promesse-là sous l'angle de ce que je vous explique aujourd'hui, la crainte de l'Éternel. Quand Salomon est devenu roi, Dieu lui a fait une promesse extraordinaire. Et lui a offert ce qu'il voulait. Et la réponse de Salomon nous montre qu'il avait déjà en lui la crainte de Dieu, le désir de lui plaire, de faire sa volonté, qu'il avait déjà en lui le respect de la majesté de Dieu. Autrement dit, la sorte de réponse que Salomon a donnée, ça montrait que Salomon était impressionné par Dieu. Retenez cette expression-là, je vais revenir là-dessus. Salomon était impressionné par Dieu et par sa grandeur. Regardez l'offre incroyable. 2 Chroniques 1 et le verset 7. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » L'offre était incroyable. Toute possibilité était ouverte. Verset 8, regardez ce que Salomon a répondu. Verset 8, « Salomon répondit à Dieu, « Tu as traité David, mon père, avec une grande bienveillance, et tu m'as fait régner à sa place. » Alors, tout de suite, au lieu de dire ce qu'il voulait, regardez ce qu'il a fait. Il a commencé par avoir de la reconnaissance envers Dieu. Il dit, « Dieu t'a béni, mon père. Tu lui as donné d'être roi. » Et pas seulement ça, tu me donnes à moi d'être roi. Merci. Voyez-vous, il a commencé par remercier Dieu. Verset 9. « Maintenant, Éternel, que ta promesse à David, mon père, s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. » Et ça, c'était la promesse que Dieu avait faite à David de faire régner un de ses descendants. Alors, c'est de ça que Salomon parle ici. Donc, reconnaissance, appréciation et conscience de qui viennent toutes choses. C'est ça que Salomon est en train de dire à Dieu. Il dit, « Dieu, je suis conscient que tout me vient de toi. Tout ce qui a été accordé à mon père, c'est toi qui lui as donné. Tout ce qui me vient, c'est toi qui me l'accorde. » Voyez-vous l'humilité, la façon de voir Dieu, la crainte respectueuse envers Dieu. Verset 10, regardez la demande. « Accorde-moi donc la sagesse et de l'intelligence. » Pourquoi? Pour être le plus important, le plus grand, non? « Afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple, car qui pourrait juger ton peuple, un peuple si grand? » Voyez-vous, ça demande, donne-moi la sagesse et l'intelligence, mais dans le fond, pas pour moi-même, mais pour que je sois capable de bien servir tout ce peuple-là que tu veux que je serve. Voyez-vous la façon de voir? Et ça, c'est une base de la sagesse. Salomon avait déjà un profond respect pour le gouverneur de l'univers. Il avait déjà une certaine sagesse, mais il savait qu'il lui en fallait davantage. Il savait qu'il lui en fallait davantage, comme nous. On en a besoin davantage. Et il faut régulièrement demander à Dieu la sagesse. Vous irez voir Proverbe 9, verset 10. C'est écrit, le commencement, j'ai souligné ici dans mon cahier, le commencement. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Mais oui, c'est juste le début. C'est le début de la sagesse. Après ça, il faut marcher avec Dieu, lui en redemander, faire l'expérience de vivre selon ses voies, lui demander de nous manifester sa bonté pour qu'on veuille changer encore et changer totalement tout ce que nous avons à changer, pour lui plaire totalement. C'est une sorte d'admiration de notre grand Dieu, d'être impressionné par lui. Et quand on est impressionné par quelqu'un, vous savez quoi? On veut plaire à cette personne-là. Et quand on est impressionné par Dieu, on veut plaire à Dieu. C'est pour ça que dans Jacques, il est écrit, Jacques 1, verset 5, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, il aurait dû dire, si vous réalisez que vous manquez tous de sagesse, parce que c'est notre cas à tous, dans le fond, demandez, qu'il demande à Dieu, comme Salomon. » Qu'est-ce qu'il a fait, Salomon? Il a demandé la sagesse. Il allait régner sur Israël. Vous, si vous êtes fidèles, si vous persévérez, vous allez régner, vous allez administrer, vous allez recevoir la gouvernance de certaines régions du monde. Pourquoi il ne faudrait pas demander la sagesse? Il faut demander exactement la même chose et revenir à la charge de ce côté-là. Qu'il la demande à Dieu, la sagesse, qui donne à tous simplement et sans reproche, parce que Dieu sait qu'on ne l'a pas, la sagesse. Il ne nous reproche pas de nous demander ce qu'on n'a pas. Il peut nous reprocher, par exemple, si on sait, de ne pas lui demander. Ça, il peut le faire. Parce qu'on est responsable de ce que nous savons. Nous sommes responsables de ce que nous savons. Et elle lui sera donnée. Dieu ne demande pas mieux que nous donner cette sagesse-là. Allez à Proverbe chapitre 8 maintenant, s'il vous plaît. Proverbe chapitre 8. On va voir plus en détail en quoi consiste la crainte de Dieu. En quoi consiste la crainte de Dieu. Proverbe 8 et le verset 13, au début du verset. La crainte de l'Éternel... C'est, donc la définition, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Et le mal, c'est tout ce qui est contraire aux lois de Dieu, à ses directives, à ses voies. Alors, craindre Dieu, avoir du respect pour lui, c'est d'haïr le mal comme lui haït le mal. Il y a des raisons de l'haïr. Avez-vous pensé le prix qu'il a payé pour le mal que nous avons fait, tous les êtres humains? Il a donné son premier né, son fils, qui a vu mourir dans des circonstances atroces, volontairement pour que nous soyons lavés de nos fautes, pour que l'amende de nos péchés soit payée. Alors Dieu haït le mal. Dieu hait le mal. Haïr ce que Dieu haït. Quand on a un respect profond pour Dieu, on développe la haine pour ce que Dieu haït, le mal. Parce que l'approbation de Dieu, elle devient de plus en plus importante à nos yeux. On veut être approuvé par celui qu'on admire, par celui qui nous impressionne. Maintenant, je vais plus loin. La crainte de Dieu, ça commence à un endroit précis dans le cœur, ou par une attitude précise dans le cœur, par l'humilité. La crainte de Dieu, la vraie crainte de Dieu ne peut pas exister s'il n'y a pas l'humilité. Et on doit absolument continuer dans cette attitude d'humilité jusqu'au royaume. Sinon, nous pouvons tout perdre. Même après avoir bien fait pendant un certain nombre d'années, si on s'affaiblit, si on se détourne, si on abandonne, on peut tout perdre. Proverbe 15, juste un peu plus loin. Proverbe chapitre 15 et le verset 33. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse, et l'humilité précède la gloire. Et regardez l'humilité que Salomon a eue de demander ce qu'il n'avait pas, la sagesse, dans le but de plaire à Dieu, de bien servir son peuple dans le poste que Dieu lui confiait. Ce n'était pas des choses pour lui-même. L'humilité précède la gloire. Et Dieu veut vous donner à chacun d'entre vous, et à moi aussi, si nous persévérons dans cette humilité-là, dans la crainte de Dieu, Dieu veut nous donner la gloire éternelle. Proverbe 22, verset 4, juste un peu plus loin. Le fruit de l'humilité, et là, il fait une autre égalité ici. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel. Autrement dit, l'humilité, c'est la crainte de l'Éternel. Ça devient ça. C'est le point de départ et c'est la crainte de l'Éternel. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est quoi? La richesse, la gloire et la vie. Voyez-vous ce qu'il y a au bout de la route? La richesse, la gloire, la vie. Pas nécessairement des grandes richesses maintenant. Dans certains cas, Dieu va nous bénir de ce côté-là. Dans d'autres cas, c'est autrement. Mais Dieu va nous donner ce que nous avons besoin pour apprendre ce que nous avons à apprendre, pour nous préparer aux grandes richesses et à la gloire éternelle que Dieu a en réserve pour nous. La crainte de Dieu, c'est donc de nous appliquer à nous détourner du mal sous toutes ses formes. Chaque jour. Chaque jour. Donc, ça veut dire de vivre, au fond, dans l'esprit de la fête des pains sans levain, qui consiste à sortir le levain de nos maisons ou à sortir le péché de nos vies. Proverbe 14. On revient juste un peu à l'arrière. Proverbe 14. Et nous allons lire le verset 16. Proverbe 14, verset 16. Regardez bien. Le sage, celui qui a demandé à Dieu la sagesse de Dieu, pour remplacer sa soi-disante sagesse humaine. Alors, il a demandé la sagesse de Dieu. Regardez ce que le sage fait. Le sage a de la retenue et se détourne du mal. Mais l'insensé est arrogant et plein de sécurité. Il a une apparente sécurité. Il est arrogant. Il a raison. Tout ce qu'il fait est bien et bon. Il a raison de dominer sur les autres, de s'accaparer des choses, de faire son chemin au détriment de qui que ce soit. Il a raison. Il veut créer sa propre sécurité, alors que la sécurité, elle est en Dieu. Le sage a de la retenue et se détourne du mal. Vous savez, nos choix, nos décisions, nos façons de vivre, elles sont déterminées par le fait que nous marchons ou non dans le respect de Dieu, dans la crainte de Dieu, en étant impressionnés ou non par le grand Dieu de l'univers. Et ça, ça détermine nos choix, ça détermine nos réactions, ça détermine nos actions. Et on va voir des exemples. Si on a cette crainte-là, c'est normal que nos actions, puis nos pensées, puis nos réactions soient de plus en plus modelées là-dessus. Parce que ce qui est le plus important dans notre vie, c'est plaire à Dieu. Et la personne, l'être suprême, d'une suprême importance pour nous, c'est lui. À part lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Ni ma vie, ni mes biens, ni ma santé, ni quoi que ce soit. Comme le Christ a dit, si quelqu'un n'aime pas Dieu par-dessus toute chose, avant toute chose, il n'est pas digne d'être mon disciple. C'est l'attitude que nous devons développer. Voyons un exemple de ça. Daniel chapitre 4. Le roi Nebuchadnezzar. Daniel chapitre 4. Le roi Nebuchadnezzar nous donne un bon exemple de ça. D'avoir une certaine retenue. À un moment donné, ce monarque-là puissant, colérique, dangereux, cruel, pour un bout de temps, s'est adouci. Mais ça l'a pas duré. Ça l'a pas duré. Mais pour un bout de temps, il s'est adouci. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. Pour un temps, comme dit le proverbe ici, il y a eu de la retenue. Il y a eu une certaine sagesse. Parce que le prophète de Dieu, il avait dit, « Fais attention, mon Nebuchadnezzar, parce qu'il va t'arriver quelque chose. Ton rêve te dit qu'il va t'arriver des choses à toi. » Et là, ça l'a refroidi un peu les ardeurs nucléaires de Nebuchadnezzar. Parce que vous savez, en plus du songe concernant la grande statue là, qui décrit les différents royaumes de l'histoire humaine, Nebuchadnezzar a eu un autre songe où il avait vu un grand arbre énorme. Et à cet arbre-là, un sort spécial avait été réservé, il avait été coupé, il était arrivé des choses particulières. Et Nebuchadnezzar voulait connaître l'explication du songe. Alors il a demandé à Daniel, il savait que Daniel pouvait expliquer les songes de la part de Dieu. Daniel 4 et le verset 19. Alors Daniel, nommé Belshazzar, fut un moment stupéfait et ses pensées le troublaient. Quand il a eu le récit du rêve et qu'il a compris ce que le rêve voulait dire, il était un peu mal à l'aise face à Nebuchadnezzar de lui dire ce qui allait lui arriver. Mais je pense que Daniel appréciait peut-être Nebuchadnezzar jusqu'à un certain point aussi. Le roi reprit et dit, « Belshazzar, que le songe et l'explication ne te troublent pas. » Et Belshazzar répondit, « Mon Seigneur, que le songe soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. » Autrement dit, Daniel lui dit, « J'aimerais mieux... Nebuchadnezzar, que ce que je vais te dire, ça s'applique à d'autres qu'à toi. » Il prépare le terrain en même temps. Belshazzar est diplomate. Verset 20. Allons plus loin. Vous pourrez lire tout le contexte. « L'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime s'élevait jusqu'aux cieux et qu'on voyait de tous les points de la terre, cet arbre dont le feuillage était beau et les fruits abondants, qui portait de la nourriture pour tous, sous lequel s'abritaient les bêtes des champs et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure, c'est toi, ô roi, qui es devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux, et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Le roi a vu l'un de ceux qui veillent et qui sont saints descendre des cieux et dire, abattez l'arbre et détruisez-le. Mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines, et liez-le avec des chaînes de fer et d'airain parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel, et que son partage soit avec les bêtes des champs, jusqu'à ce que 7 ans soient passés sur lui. C'est-à-dire 7 années, 7 temps bibliques. Verset 24. Voici l'explication, ô roi. Voici le décret du Très-Haut, donc ce que Dieu a décidé en ce qui te concerne, qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, et on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger, et tu seras trempé de la rosée du ciel. Et 7 ans, 7 années passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui lui plaît. L'ordre de laisser le tronc où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. Alors, voilà l'explication du rêve qui était assez frappante. Verset 27. Et regardez ce que Daniel, le serviteur de Dieu, dit à Nebuchadnezzar. Dans le fond, il lui dit, repens-toi, attention à ce qui s'en vient, change. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire, mets un terme à tes péchés. Ça prenait du courage de la part de Daniel de dire ça à ce dictateur cruel qu'on pourrait comparer à un Gbagbo ou à un Kadhafi, ou c'était ça, ce dirigeant-là. « Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et tes iniquités, en usant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. » Nebuchadnezzar était puissant. Très puissant, vous le savez. Très intelligent, talentueux, exigeant, cruel, égoïste. Profondément impressionné. Vous savez par qui? Par lui-même. Profondément impressionné par lui-même, hein? Voici Babylone que j'ai bâtie par la force de mon bras. Facile de voir quand quelqu'un est impressionné par lui-même. Il y a des démonstrations, des manifestations. Dans le fond, Daniel lui dit de se repentir et il lui dit ce qui va lui arriver. Et il lui dit, écoute, même si tu as un poste que tu crois important et qui est effectivement important, c'est le Dieu suprême qui donne à chacun les postes et c'est lui qui est en autorité. Et comme je vous disais tantôt, le roi a sans doute été un petit peu plus gentil, un petit peu plus réservé pendant un certain temps. Pendant un certain temps. Puis, l'impact, parce que son rêve avait eu un impact sur lui, puis l'explication de Daniel avait eu un impact sur lui, mais l'impact de son rêve s'est atténué tranquillement, s'est estompé, ça s'est en allé. J'appelle ça l'usure du temps. C'est dangereux pour nous autres, l'usure du temps, comme pour n'importe qui. Lorsqu'on croit à quelque chose, lorsqu'on a une responsabilité de la faire, de l'exécuter jour après jour, puis de tenir fermement contre l'usure du temps. Et là, il y avait la nature humaine, et il y a la bonne vieille phrase, chasser le naturel, et il revient au galop. Alors, c'est ce qui s'est passé. Pas longtemps après, 12 mois plus tard, l'avertissement de Dieu avait été complètement oublié. Regardez le verset 28. Verset 28. Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi de Nabuchodonosor. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit, « N'est-ce pas ici Babylone, la grande, que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? » Il y a gros des jeux, moi ici, là. De ma magnificence. Comme je suis grand. Comme je suis grand. Et même si on est tout petit, des fois, on a tendance à dire comme je suis grand. Ou à penser comme je suis grand. Comme un enfant, hein? Je suis grand maintenant. Parce que je peux, je ne sais pas, attacher mes souliers. On trouve ça drôle de l'entendre dire ça. On sait qu'il n'est pas grand. Mais lui, dans sa tête, il est grand. Mais nous, en tant qu'être humain, parfois, on se pense grand aux yeux de Dieu parce qu'on réussit à faire quelques petites choses. Et on s'en attribue le mérite. Et regardez versets 31-32, la parole était encore dans la bouche du roi. Il n'avait pas fini de parler qu'une voix descendit du ciel. « Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger, et 7 ans passeront, 7 années passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui lui plaît. » OK? Il y a un rappel du message de Daniel. Regardez au verset 37. Vous pourrez lire tout le chapitre chez vous. Verset 37. Après qu'il a eu vécu cette expérience-là et que les sens lui ont été redonnés, là, il a reconnu que Dieu est suprême. Verset 37. « Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies, dont toutes les voies sont justes et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. » Là, il avait reconnu qu'il avait marché avec orgueil et qu'il n'était rien. Il avait été tellement rien qu'il avait été réduit à manger de l'herbe comme les animaux à 4 pattes dans le champ pendant 7 années. Lui, ce grand monarque qui se pensait tellement puissant. Par quoi les gens sont-ils impressionnés généralement? Puis là, je mets mon nom dans la liste pour lui mettre le vôtre. Par nous-mêmes. C'est facile. C'est la nature humaine. Les gens sont impressionnés par eux-mêmes. Comme l'apôtre Paul avait été dans le passé impressionné par lui-même. On le voit dans le genre de choses qu'il écrit. Philippiens 3. Allez à Philippiens 3, ça vaut la peine. Philippiens chapitre 3. Dieu appelle des gens qui ont tous été impressionnés par eux-mêmes. Et plus on connaît Dieu, moins on est impressionné par nous-mêmes, et plus on est impressionné par Dieu. Et moins on veut se plaire à nous-mêmes, et plus on veut plaire à notre Créateur. L'apôtre Paul, c'était son cas. Avant ça, c'était un homme très important. Hein? Et il dit, j'ai été important. C'est-à-dire, je me pensais important. C'est ça qu'il dit vraiment ici. Philippiens 3, voyons à partir du verset 4. Il dit, moi aussi, cependant, j'aurais sujet de me confier en la chair. parce qu'il s'adressait à des gens qui se vantaient de ce qu'ils pouvaient réaliser. Il dit, moi aussi, je pourrais me vanter si je voulais. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis davantage. Moi, circoncis le huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien quant au zèle, et pharisiens, c'était des gens qui avaient des postes élevés dans la théologie de l'époque, c'était les dirigeants religieux de l'époque, des gens qu'on regardait comme étant des sommités, des gens qui connaissaient beaucoup de choses. Pharisiens, quant au zèle persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice et de la loi. C'est-à-dire irréprochable dans ce qui pensait être la justice et dans ce qui pensait être la loi, mais qui est un vêtement souillé, comme Dieu dit. Ne ce qu'on pense, nous, être bon, c'est pas ça. Alors, regardez maintenant ce que Paul dit par après. Et ces choses-là qu'il a pensé être importantes, voici comment il les voit maintenant, après avoir été appelé, après avoir vu la grandeur de Dieu, et après avoir développé l'humilité. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les voyais comme quelque chose de beau, de grand, quelque chose de plus, des atouts, des choses importantes. Je les voyais comme des gains avant, mais là, je les ai regardés comme une perte à cause du Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'intelligence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde aujourd'hui comme de la boue. C'est pas peu de choses, là. Il dit, le fait d'avoir été un pharisien, le fait d'avoir été un chef religieux, le fait d'avoir occupé les postes que j'ai occupés, d'avoir toute la connaissance, d'avoir été enseigné par Gamaliel, et ainsi de suite, toutes ces choses-là, je les regarde comme de la boue. Maintenant, je connais le Christ. Et je connais la vraie voie, je connais la crainte de l'Éternel. La révérence qui est due au vrai Dieu. On commence tous par être impressionnés par nous-mêmes. Puis on a tendance à reprendre ça de temps à autre. Il faut se méfier de nous-mêmes. Les chefs, les dirigeants de notre société actuelle sont pas différents de ce qu'on était avant et de ce qu'on est encore malheureusement parfois. Ils sont impressionnés par eux-mêmes. C'est facile à voir. Par leur réalisation, par leur pouvoir, par leur prestige, par leurs habiletés. Et regardez comment, à la télévision, dans les bulletins télévisés, comment ils s'accordent le crédit de tout ce qui arrive de bien. Regardez les chefs des partis politiques et même les ministres et tout ça. Tout ce qu'ils font, c'est bon. Avez-vous remarqué, il n'y a jamais un ministre d'un gouvernement humain ou un premier ministre qui est arrivé puis devant la télévision ou en conférence de presse et qui a dit « Je m'excuse beaucoup. Sur tel point, on s'est trompé complètement. » Il n'y a pas personne qui me l'avait dit, mais on vient de réaliser qu'on s'est trompé et on va changer ça pour le bien de tout le monde. Absolument pas. S'ils se trompent, s'ils font une erreur majeure, qu'ils perdent des millions dans une mauvaise aventure ou tout ça, ils trouvent toujours des raisons pour que ça ait été finalement une bonne chose. Vous ne les réalisez pas complètement, mais ça a été pour le mieux de la société, pour les gens qu'on représente, par lesquels et pour lesquels nous avons été élus. Est-ce que c'est pas ça qu'on entend? Ils sont pas prêts à reconnaître leurs limitations et leurs fautes et leurs erreurs. Ils sont impressionnés par eux-mêmes, par ce qu'ils font. Tout comme Nabuchodonosor. Je vois plus loin. Tout comme Nabuchodonosor, la bête qui s'en vient, le chef militaire en Europe, et le faux prophète, le chef religieux, qu'on voit dans Apocalypse 13, vont être grandement, et je dis grandement, grandement impressionnés par eux-mêmes, par leurs exploits. Et ils vont en faire des exploits, juste avant d'être détruits. Proverbe 18. Proverbe 18 et le verset 12. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Quand l'homme sans Dieu commence à réaliser qu'il peut faire des choses et qu'il s'en vante, qu'il s'enorgueillit de ça, qu'il se trouve bon de pouvoir faire ça, il s'en attribue le crédit et il s'élève et c'est juste ce qui précède la ruine. Mais l'humilité précède la gloire, comme on a vu tantôt. Vous savez, le faux prophète qui va bientôt être sur la scène mondiale va, par la puissance de Satan, être capable d'accomplir de grands prodiges. Vous le savez par les textes. Même à aller jusqu'à faire descendre du feu du ciel. Ce sera néanmoins un homme animé par la puissance de Satan, comme on voit dans les textes, c'est vrai. mais ce sera simplement un homme. Et parce qu'il est simplement un homme et qu'il n'aura pas la sagesse de Dieu, il va devenir convaincu que c'est par sa puissance qu'il est capable de faire ces choses. Et il sera impressionné par ce qu'il fait, et il va même se croire et se déclarer Dieu, comme c'est clairement écrit dans la Bible. Voyez-vous le cheminement de ce qui mène à la ruine, du cœur qui s'élève, du cœur humain? Lui va recevoir dans le fond une puissance extraordinairement grande, que Dieu va permettre. Mais il va suivre cette puissance-là en pensant que c'est lui qui est l'auteur et celui qui mérite les louanges et l'adoration et ainsi de suite. Et il va se prétendre Dieu lui-même, comme on voit dans les textes. Et tout ce en quoi les hommes auront placé leur confiance dans la société actuelle, tout ce en quoi les hommes auront placé leur orgueil, leur espoir, leur valeur, ne leur serviront de rien. Zéro. Aucun secours. Pourtant, ils auront placé tous leurs espoirs là-dedans. Mais Dieu va leur montrer que c'est du vent, que c'est rien. Quand tout ça va disparaître, quand tout ça va disparaître, tous ces faux dieux sans force, sans pouvoir, vont être anéantis. Les prophéties nous montrent que les chars de guerre vont être détruits complètement, que les armées vont être anéanties. Ce dans quoi les nations du monde mettent leur orgueil maintenant, mettent leur investissement, prennent l'argent des pauvres gens, puis bâtissent des canons, bâtissent des chasseurs, bâtissent des armes de plus en plus sophistiquées et destructrices, en espérant que ça va leur apporter un pouvoir et une capacité de régner sur le monde. Tout ça va s'effondrer totalement. Et ils verront que Dieu est Dieu et qu'ils ne sont que des hommes, qu'ils ne sont que poussière. Et c'est pour ça aussi qu'on va les voir, comme la Bible dit, jeter leur argent et leur or dans les rues. On a vu dernièrement un dictateur, celui de la Tunisie, je pense, Ben Ali. Une fois qu'il a eu quitté son pays, les gens ont ouvert les murs de son palais. C'était des billets de banque de toutes sortes de pays empilés du plancher au plafond, des fortunes incroyables. Pourquoi? Parce que sa confiance était dans le mur. Mais le mur va s'effondrer complètement. Pour lui et les autres qui mettent leur confiance là-dedans. Il n'y a aucun secours là-dedans. Et maintenant, il est en fuite. Et à ce qu'on me dit, il est malade. Et j'imagine qu'après avoir tellement mis sa confiance dans quelque chose d'instable comme ça, et tellement avoir fait souffrir de monde pour garder le pouvoir, se pensant important, c'est pas pour rien qu'il y a les problèmes qu'il a actuellement. Rappelez-vous les plaies par lesquelles Dieu a frappé l'Égypte. Au moment où il a fait sortir son peuple. Rappelez-vous les plaies. Il a détruit leur Dieu, pas à peu près. Pas à peu près. Eux autres, ils adoraient le Dieu R.A., accent circonflexe, le Dieu soleil. Ça a été quoi une des plaies? Les ténèbres. Vous adorez le soleil? Je vais vous montrer qui contrôle tout ça. Il a envoyé les ténèbres sur l'Égypte. Ils adoraient le Nil comme la source de vie. Il l'a changé en sang. Et tout ce qu'il y avait dedans est mort. Pour leur montrer que c'était une source de mort. OK? Sans Dieu, rien. Ils adoraient la vache. Dieu a détruit les bovins dans leur champ par la grêle et par toutes sortes de calamités au moment de faire sortir son peuple. Pourquoi ces plaies? Pourquoi quelle raison ces plaies? Comme c'est écrit dans la Bible, pour exercer un jugement contre tous les dieux de l'Égypte, avec un petit dé. Tous les petits dieux de l'Égypte, pour montrer aux Égyptiens qu'il y avait un seul Dieu, celui qui règne dans les cieux. Pour exercer un jugement contre les dieux de l'Égypte, ces faux dieux, contre ce que les gens adoraient, contre ce en quoi ils plaçaient leur confiance. Bientôt, Dieu va puissamment montrer au monde que tout ce en quoi ils placent leur orgueil, leur confiance, leur espérance, leur valeur, n'est que du vent, sans aucune valeur réelle. Comme si vous alliez pour vous garantir d'une situation en mettant le pied sur des sables mouvants. Vous rentrez tout simplement à l'intérieur. Mais avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Et les êtres humains vont former une grande armée pour attaquer le Christ à son retour. L'humilité précède la gloire. Les humbles seront avec le Christ pour rétablir la situation et amener enfin la paix sur cette terre qui souffre. L'humilité mêle à la gloire pour ceux qui s'humilient vraiment, pour ses serviteurs fidèles. Dieu prépare de grands honneurs, partager sa gloire, partager son autorité, partager son administration. Des fois, je me pose la question, est-ce que je le saisis vraiment? Je ne pense pas que je saisisse vraiment la grandeur de tout ce que c'est. On a besoin d'y repenser, de demander à Dieu de nous montrer, parce qu'on ne le voit pas, on ne l'a jamais vu. On l'entrevoit, mais on n'en saisit pas toute l'ampleur. On a plein de choses à découvrir encore. On n'a pas fini d'en découvrir. Dieu va donner sa gloire à ceux qui persévèrent dans la vraie humilité, dans la crainte respectueuse de son autorité. Vous savez, Dieu donnera jamais à personne en qui il y a encore de l'orgueil un poste glorieux d'autorité. Jamais. Un poste de gouvernance dans son royaume de justice. Ça, il faut que ce soit réglé avant que nous entrions dans le royaume. Il ne laissera entrer personne. M. Armstrong l'a dit à plusieurs reprises, c'était extrêmement clair. Et ça se comprend. Et ça se comprend. Dieu n'acceptera aucun humain avec une tendance satanique de vouloir se penser important, de vouloir faire les choses à sa façon. Dieu va vouloir avoir des enfants unis, en harmonie, pour diriger l'humanité et diriger l'univers pour le reste de l'éternité. Et c'est pour ça qu'il va y avoir du bonheur, de l'harmonie et de l'entente. Parce que ça aura disparu complètement, l'orgueil. Et nous, on a à combattre ça maintenant. Vous savez, si Dieu donnait à des orgueilleux la vie éternelle, s'il donnait à des orgueilleux, même un tout petit peu orgueilleux, des postes de direction, les conséquences seraient terribles. On se retrouverait dans les mêmes situations où on se retrouve dans le monde actuellement avec des tyrans, des dominateurs, des gens cruels qui écrasent les autres et tout ça. Ça, c'est le résultat. C'est juste une question de degré ensuite. On trouve ça dans tous les pays. On trouve ça d'ailleurs dans le cœur de tous les êtres humains. Après ça, c'est une question de degré. Qu'est-ce que ça produit? Je pose la question, qu'est-ce que ça produit l'orgueil chez un dirigeant? Qu'est-ce que ça produit? Un dirigeant qui est orgueilleux, ça produit de l'entêtement. Ça produit de l'entêtement. Il ne veut pas changer, il a raison. Ça produit de l'égoïsme, parce qu'il veut les choses pour lui. Il veut les choses pour lui. Ça produit une attitude de domination sur les autres. Il a raison, les autres ont tort, les autres doivent le servir. Il n'est pas là pour les autres sont là pour lui. Et ça produit un être qui n'est pas enseignable. Il ne veut pas se faire dire quoi faire. Par personne. Par personne. Plus il y a d'orgueil dans quelqu'un, moins il y a de crainte de Dieu. Mettons ça de même. Plus il y a d'orgueil dans quelqu'un, moins il y a de crainte de Dieu. Moins il y a ce respect profond qui nous amène à lui plaire. Mais Dieu nous donne les outils pour qu'on l'ait. Il ne faut pas se décourager. Il nous montre ça pour qu'on ait les outils pour le faire. Je vais vous donner le cas du roi Ozias. Allez dans 2 Chroniques, chapitre 26. 2 Chroniques, chapitre 26. Le roi Ozias est venu à son poste de roi sur Juda, très jeune. Et il a régné de bonne façon, pendant un bon bout de temps. Il a plu à Dieu. Puis après ça, il a laissé l'orgueil entrer en lui. Au lieu d'être impressionné par Dieu, puis de vouloir lui plaire, il a commencé à être impressionné par les réalisations que Dieu lui donnait de faire. Et il a commencé à vouloir se plaire en se permettant des choses qui n'étaient pas à lui. Et son orgueil l'a poussé à abandonner la crainte de Dieu pour faire les choses comme il lui semblait bon. Comme je vous dis, il avait connu un bon départ. Il s'est montré un habile dirigeant au début, pendant un certain nombre d'années. Et il a été béni par Dieu à cause de son attitude et ce qu'il faisait. Mais comme je vous dis tantôt, comme je vous ai dit, l'usure du temps, c'est dangereux. Il faut garder la même attitude puis la même course, la même allure que quand Dieu nous appelle. Il ne faut pas le perdre. Il faut toujours revenir à nos premiers amours et rester éveillé. Rester éveillé, vous savez tout ce que ça veut dire, ce mot-là. Rester éveillé à nos responsabilités, puis au fait de marcher avec Dieu. 2 Chroniques 26, verset 1. Tout le peuple de Juda prit Ozias, âgé de 16 ans, et l'établit roi à la place de son père, Amatsia. Verset 4. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement, comme avait fait Amatia son père. Verset 5. Il s'appliqua à rechercher Dieu. Ah, c'est bien, hein? Il s'appliqua à rechercher Dieu. Pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. C'était son prophète. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel Dieu, Dieu le fit prospérer. Remarquez bien. Dans le temps où il s'est appliqué à chercher Dieu, Dieu l'a fait prospérer. Et notez bien, là, dans le temps où il rechercha Dieu, où il voyait Dieu comme plus important que lui, où il était davantage impressionné par Dieu que par lui, où il voulait faire tout ce que Dieu voulait qu'il fasse. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'il a bâti beaucoup de choses. Regardez au verset 7. Dieu l'aida contre les Philistins, contre les Arabes qui habitaient à Gur-Baal et contre les Maonites. Les Ammonites faisaient des présents à Ozias et sa renommée s'étendit jusqu'aux frontières de l'Égypte, car il devint très puissant. Ozias bâtit des tours à Jérusalem, sur la porte de l'angle, sur la porte de la vallée et sur l'angle, et il les fortifia. Il bâtit des tours dans le désert, il creusa beaucoup de citernes, parce qu'il avait de nombreux troupeaux dans les vallées et dans la plaine, et des laboureurs et des vignerons dans les montagnes et au Carmel, car il aimait l'agriculture. Alors on voit par le contexte ici qu'il craignait Dieu, il voulait faire sa volonté, Dieu le bénissait, il a bâti beaucoup de choses, il a rapporté des grandes victoires militaires, vous pourrez lire tout le chapitre, il a relevé l'économie du pays, et il a construit une agriculture florissante. Parce qu'il le faisait pour l'Éternel et il obéissait à Dieu. Et plus il obéissait à Dieu, plus Dieu le bénissait. Mais, l'usure du temps, la négligence de ne pas faire attention, de ne pas être sur ses gardes. Regardez le verset 16. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Il était roi, il n'était pas sacrificateur. Ce n'était pas son rôle. OK, mais là, parce qu'il était devenu puissant et que ce qu'il touchait réussissait, il disait, je suis correct aux yeux de Dieu, je suis bon. Ah, voyez-vous, l'orgueil est revenu. Je fais quelque chose d'extraordinaire, je suis à considérer comme étant important. Donc, je peux me permettre de décider de faire des choses que moi, je juge pouvoir faire, alors que c'était contraire à la loi de Dieu. Regardez ce qui est arrivé. Il est entré dans le temple, il a offert des parfums pour offrir des parfums. Regardez le verset 17 et 18. Le sacrificateur Azaria entra après lui, avec 80 sacrificateurs de l'Éternel, hommes courageux, qui s'opposèrent au roi Ozias et lui dirent, « Tu n'as pas le droit, Ozias, d'offrir des parfums à l'Éternel. » Ce droit appartient aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés, désignés par Dieu pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché. Et tout cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. Alors, on pourrait s'attendre ici que devant cette mise en garde claire de la part d'un ministre de Dieu, de la part d'un prophète à ce moment-là, que le roi se repente et dit « Je me suis trompé, je vais demander pardon à Dieu et je vais changer, ce n'est pas ma place. Je sais, la loi est claire là-dessus. Son prophète me le dit. » Regardez la réaction et l'attitude qu'il a eue. Verset 19. La colère. Quelqu'un d'orgueilleux et colérique. Il n'accepte pas de se faire dire quoi faire. Il n'accepte pas de reconnaître ses torts ou ses faiblesses. La colère s'empara d'Ozias, qui tenait un encensoir à la main. Et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front, en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. Le souverain sacrificateur Azaria et tous les sacrificateurs portèrent les regards sur lui. Et voici, il avait la lèpre au front. Ils le mirent précipitamment dehors, et lui-même se hâta de sortir, parce que l'Éternel l'avait frappé. Le roi Ozias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort et il fut exclu de la maison de l'Éternel et son fils régna à sa place. C'est clair, c'est puissant. Dieu n'entend pas à rire avec ces choses-là. Absolument pas. le point de départ de cette fin tragique pour ce roi qui avait pourtant si bien commencé. Lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva, son cœur s'est élevé. Vous savez, on dit, bon, c'est l'histoire ancienne. Oui, c'est l'histoire ancienne. Mais c'est une histoire très actuelle, parce que ça s'applique à moi, ça s'applique à vous. Il faut faire extrêmement attention. Il y a des grandes leçons pour nous, que Dieu a appelées et qu'il bénit, à qui Dieu donne de remporter des victoires, d'avoir des succès, de croire dans la grâce, dans la connaissance, d'être encouragé de cette façon-là. Dieu nous dit, même là-dedans, attention de ne pas nous laisser être impressionnés par nous-mêmes, par ce que nous accomplissons. Je devrais dire par ce qu'il nous est donné d'accomplir. Pas se laisser impressionner par ce que nous accomplissons, plutôt que de rester humblement impressionné par Dieu qui nous donne toutes choses et qui nous donne les victoires sur toutes choses, qui nous donne les succès que nous pouvons avoir. Tout nous vient de lui. C'est clair dans sa parole. Il faut que ça soit clair dans notre cœur pour qu'on agisse en conséquence. Vous savez, il y a eu plusieurs exemples malheureux de ça dans l'Église, de gens qui se sont laissés impressionner par eux-mêmes, avec le temps, avec l'usure du temps. Parfois, certains membres ont commencé à se sentir plus importants que d'autres. Déjà, on n'est pas là pour un concours d'importance. On est là pour plaire à Dieu, et chacun a son chemin. Et c'est pour ça que la Bible dit, « Monsieur appartient à tellement insister, ne vous comparez pas les uns aux autres. » C'est vous face à Dieu. À quel point est-ce que vous essayez d'imiter le Christ? Est-ce que vous développez la stature de Christ? C'est ça la question. C'est pas est-ce que je suis mieux que monsieur un tel ou madame une telle, ou je réussis plus dans tel domaine que lui ou elle qui ont manqué leur coup dernièrement de telle façon. Attention à ça. Parce que ça, c'est de laisser entrer l'orgueil. Si je commence à me comparer aux autres et à me sentir plus important, à me sentir meilleur que les autres, que ce soit dans l'Église ou à l'extérieur. Il y a un piège aussi pour les gens de l'Église. Par rapport aux gens d'en dehors, les gens d'en dehors ne sont pas appelés. Ils n'ont pas la responsabilité que vous avez ou que j'ai, moi, de vivre selon les lois de Dieu. Et ils ne le savent pas. Je ne peux pas leur reprocher. Et je ne peux pas les faire sentir coupables de ce que moi, j'ai la responsabilité de changer. Ça, à ce moment-là, c'est le chemin de l'orgueil. Et c'est d'être impressionné par soi-même, de dire, regardez la vie que moi, je suis en train de bâtir, alors que les autres ne vivent pas selon Dieu. Mais vous, il faut faire attention à ça. C'est notre chemin personnel face à Dieu. Les traiter de haut, avec froideur, avec dureté. Dominer sur eux. Leur imposer des choses. Ils ne comprennent pas pour l'instant. Laissez-les tranquilles. Laissons-les tranquilles. Donnons-leur l'exemple, par exemple. Le Christ nous dit, soyez le sel de la terre, soyez la lumière du monde, dans notre façon de vivre, dans notre façon de faire. Après ça, c'est entre eux et Dieu, quand Dieu va les appeler. Aussi simple que ça. Mais certains ont emprunté ce sentier-là et ont créé des problèmes. D'autres, dans l'Église, parfois, se sont vus confier certaines responsabilités. Et quand ça a été le temps de partager ces responsabilités-là avec d'autres ou de les donner à d'autres, ça a été la lutte pour une charge gardée. Déjà, c'est le chemin de l'orgueil. C'est mon poste, c'est ma responsabilité. On m'avait demandé de faire ça et maintenant on me l'enlève. Il y a un gouvernement dans l'Église de Dieu. Et parfois, on doit donner à différentes personnes la chance de faire différentes choses. Voyez-vous? Et il faut être prêt à servir là où on peut servir le mieux. Ça, c'est l'attitude d'humilité que Dieu veut voir. Et l'équipe de Dieu va fonctionner dans le monde à venir parfaitement, comme sur des roulettes, harmonieusement, parce que tous vont vouloir faire au mieux là où ils seront. Et ça, on doit l'apprendre maintenant. Dans d'autres cas, dans le passé, certains hommes qui n'avaient pas été ordonnés ministres pour enseigner se sont mis à enseigner aux autres membres de l'Église, parfois même en petits groupes, pour répondre à leurs questions. Parce qu'ils avaient acquis une bonne connaissance technique de la parole de Dieu. Mais rappelez-vous que la connaissance peut enfler, dépendant de la façon dont on s'en sert. Et là, ils se sont sentis investis de l'autorité de faire ça, ce qui n'était pas le cas. Ils n'avaient pas à enseigner le peuple de Dieu. Il y a des ministres ordonnés. qui ont suivi le chemin de l'orgueil aussi. Il faut faire attention, même en tant que ministre aussi. On a le même combat que tout le monde. Il y a des ministres ordonnés qui se sont parfois laissés être plus impressionnés par eux-mêmes, par leur poste, que par Dieu. Plutôt que de chercher encore à apprendre à mieux servir, un peu ce que Salomon avait demandé, « Montre-moi, donne-moi la sagesse pour mieux servir ton peuple. » Au lieu que de travailler dans cette attitude d'humilité-là, ils se sont appliqués à chercher des postes plus élevés, comme dans les gouvernements du monde. Une personne est élue à un poste, elle veut un poste plus haut, et là, il y a des guerres de couloirs et de coulisses pour essayer de tasser un, tasser l'autre pour avoir un poste plus élevé. C'est arrivé déjà dans l'Église, malheureusement. Mais ce n'est pas un signe de conversion ou de conversion profonde, absolument pas. Certains ont essayé de consolider leur autorité, à dominer, à préserver leur territoire, allant même jusqu'à refuser de collaborer avec d'autres. Refuser de collaborer avec d'autres et protéger leur territoire, à ne pas accepter les demandes de la part du gouvernement de Dieu qui venait du quartier général. Attention à ça. Attention à ça. C'est un chemin qui ressemble au chemin suivi par le roi Ozias, qui à un moment donné, après avoir réussi un certain nombre de choses, après avoir pendant un certain temps eu les bénédictions de Dieu, qui s'est pensé justifié à ses propres yeux, de prendre une fonction ou de vouloir avoir une fonction qui n'était pas la sienne. C'est Dieu qui désigne qui fait quoi. Dieu a un gouvernement précis. Et Dieu est en train de nous l'apprendre. On est là pour l'apprendre. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Et c'est formidable. Et c'est pour ça qu'il doit y avoir de plus en plus d'unité dans l'Église. Et s'il y a des conflits entre certains individus, même dans le ministère parfois, ces conflits-là doivent se régler. Doivent se régler. Sinon, il y aura un prix à payer. Et l'histoire de ceux qui ont maintenu ces attitudes-là, dans les cas que je vous ai donnés, comme dans d'autres, habituellement ne se finit pas très heureusement. Sauf dans les cas où il y a eu vraiment à repentir et où les gens se sont repris en main, ont demandé à Dieu pardon, puis ont demandé à Dieu de les aider, puis ils sont repartis dans l'équipe, là où Dieu les plaçait, dans la fonction où ils étaient, et pour faire au mieux ce qu'ils avaient à faire. Vous savez, en tant que ministre, je vais vous dire une chose. Peut-être que ça va vous encourager aussi. Mais moi, il faut que je le réalise, puis il ne faut pas que je l'oublie. En tant que ministre, nous sommes d'abord membres de l'Église de Dieu. On est d'abord membres de l'Église de Dieu, et on le reste toujours. Bien sûr, on a une fonction additionnelle de servir les membres de l'Église au mieux, puis de supplier Dieu pour ça. Mais on reste d'abord des membres de l'Église de Dieu, avec les mêmes combats personnels que tous les membres de l'Église de Dieu ont ou peuvent avoir. Ça, c'est la réalité. Et si j'oublie ça, parce que je suis ministre, en disant parce que Dieu a permis, a voulu que je sois ordonné ministre, moi, je peux me permettre un peu moins ou de faire les coins ronds au point de vue spirituel ou tout ça. Je suis en train de me croire important. Je prends des décisions qui vont à l'encontre de Dieu. Je diminue mon respect envers celui qui m'a donné ce poste. Et je suis en train d'emprunter le chemin de l'orgueil, de faire les choses à ma façon. L'avertissement de Dieu, c'est le même pour tous dans l'Église. Pour tous, absolument tous. Membres, évangélistes, ministres. Vous savez le passage dans 1 Corinthiens 10, verset 12, qui dit « Que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » Ce n'est pas marqué « excepté les ministres ». Que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Ça, faut que j'y pense régulièrement. Il faut que les autres ministres de Dieu à travers le monde y pensent régulièrement aussi. Que celui qui pense être solide prenne garde. Si je me crois fort, je suis faible. Paul dit, c'est quand je suis faible que je suis fort. Parce que quand je suis faible, je compte sur la force de Dieu pour m'aider à avancer. Non pas sur ma force. Parce que ma force, elle n'ira pas loin. Elle ne me conduira pas très loin. La solidité, la force, ça vient de Dieu seul, pour celui qui craint Dieu et qui se laisse impressionner par lui. Tous ceux qui se sont à nouveau laissés être impressionnés par eux-mêmes, comme les cas que je viens de vous donner, n'ont pas connu de résultats heureux, comme je vous dis, à moins qu'ils se soient repentis, qu'ils aient changé et qu'ils se soient repentis vraiment profondément. Le point de départ de la fin tragique d'Ozias était quoi? Le verset 16. Lorsqu'il fut puissant. Quand il a réussi des choses, quand ça allait bien, son cœur s'est enflé. à ce moment-là. Grande leçon pour chacun de nous autres que Dieu a appelé. Lorsque nous réussissons, c'est important, je reviens là-dessus, quand on réussit à vaincre certaines fautes, lorsque nous recevons en plus des bénédictions de Dieu, lorsque nous sommes guéris, lorsque nous sommes protégés par Dieu, lorsque nous connaissons certains succès dans ce que nous entreprenons, parce que Dieu est avec nous, parce que tout nous vient de Dieu, attention! Attention de ne pas penser que nous y sommes pour quelque chose. Attention de ne pas penser que c'est un peu grâce à mes talents, que c'est un peu grâce à mes efforts. Bien sûr, j'ai des efforts à faire, j'ai un travail à faire, mais Dieu, c'est Dieu qui bénit ça, c'est Dieu qui m'a donné les talents. C'est Dieu qui m'a donné les possibilités. Tout vient de lui. Attention de ne pas suivre ce que la Bible appelle notre cœur tortueux, comme Osias, et de ne pas nous permettre, certains compromis avec les lois de Dieu, avec son gouvernement, avec ce que son gouvernement établit, ou ce que son gouvernement fait, ou ce que son gouvernement planifie pour que l'œuvre s'accomplisse. Il faut que chacun dans l'œuvre accomplisse le rôle qu'il a à faire. Là où les dirigeants d'Église, sous l'inspiration de Dieu, le mettent de place. Rappelons-nous toujours que la crainte de Dieu, c'est un profond respect de Dieu, de ses lois, de ses commandements, de ses directives. C'est une application constante à devenir de plus en plus comme le Christ. C'est à ça qu'on est appelé, pour nous préparer à régner. C'est une application à faire de plus en plus sa volonté, comme David faisait, hein? Oh, comme j'aime ta loi. David, est-ce qu'il était parfait? Non, il n'était pas parfait. Absolument pas. Comme vous et moi, on n'est pas parfait. Mais on se repent, on avance, on demande pardon, on continue, on se bat. Mais on supplie Dieu. Et il faudra le faire jusqu'au retour de Christ. Parce qu'on ne sera pas parfait tant que le Christ ne sera pas revenu et que lui-même ne nous aura pas rendu parfait. Vous pourrez aller voir psaume 111. Et le verset 10, c'est écrit, « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. » On l'a vu tantôt. « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. » Et la deuxième partie du verset, je vous la traduis dans le sens original et comme elle est écrite dans la version du roi Jacques ou la King James Version. « Ceux qui observent ces commandements ont une bonne compréhension des choses. » Ceux qui observent ces commandements ont une bonne compréhension des choses. C'est pour ça qu'ils ont de la sagesse. Et qu'est-ce que Dieu dit dans Actes 5, 32? Il dit, je donne mon esprit à ceux qui m'obéissent. Alors, plus je fais des efforts pour obéir à Dieu, plus il me donne son esprit, plus j'ai cette sagesse, plus j'ai cette appréciation de lui. Là, plus je peux remporter des victoires sur mes faiblesses et plus je peux plaire à Dieu et me préparer à servir dans le monde à venir. La crainte de Dieu, comme j'ai dit au commencement du message, c'est vraiment le fondement de la vie chrétienne. C'est de chercher de tout cœur à nous purifier de tout mal, régulièrement, à faire toute sa volonté de Dieu, toute la volonté de Dieu, à accomplir son œuvre, à développer le caractère de notre grand frère, pour nous préparer à régner dans la gloire. La crainte de Dieu, ce respect, c'est de voir notre besoin absolu de Dieu. On dépend de lui pour toute chose. Il faudra garder ce concept-là avec nous jusqu'au jour où le Christ reviendra. Que nous dépendons totalement de Dieu pour toute chose. Dans ce cas-là, Dieu est capable d'intervenir et de nous répondre, et de nous aider et d'ouvrir le chemin, nous protéger, nous guider, nous encourager. Et il prend plaisir à le faire. La crainte de Dieu, c'est un profond respect du gouverneur de l'univers. Et c'est ça qui amène une paix d'esprit, une assurance. Ça augmente la foi. Et ça nous aide à obéir encore mieux, davantage. Psaume 34, le dernier verset, psaume 34, Psaume chapitre 34, et nous allons lire le verset 10 et 11. On revient encore avec ce thème-là, c'est le sujet du sermon. Comme je vous ai dit, on le retrouve tout au long de la Bible. Craignez l'Éternel, vous, ces saints, vous qui avez été sanctifiés, qui avez été sortis du monde pour vivre autrement maintenant, pour vivre selon ses voies. Vous qui lui appartenez, craignez l'Éternel, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Tout ce dont nous avons besoin pour nous rendre au royaume, Dieu va nous le donner si nous continuons humblement à être impressionnés par lui, à l'admirer, à vouloir faire sa volonté dans tous les aspects de notre vie. Et regardez le verset 11. Les lionceaux éprouvent de la disette et de la faim. Les petits lions dans le bois, parfois, ont faim parce qu'ils manquent de nourriture selon les sécheresses ou les saisons, ou ainsi de suite. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne seront privés d'aucun bien. D'aucun bien. Dieu a soin de ceux qui l'appellent et qui ont cette crainte respectueuse envers lui. Nous avons un choix d'importance capitale. Être impressionnés par nous-mêmes et chercher à nous plaire, à satisfaire tout ce que l'on veut. Être impressionnés par les autres, puis chercher à être accepté, à être comme eux autres, à ne pas être différent. Ou bien être impressionné par Dieu et décider de lui plaire à tout prix vers un avenir fantastique.